Radio Okapi.
Maisha bora.
Bienvenue dans Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Tati Mapoku coordonne et présente cette émission. Mimi Kindo assure la prise de son et Tina Salama s'occupe de la supervision de ces numéros. La crise d'épilepsie, quels sont les facteurs à la base de cette maladie et comment se fait la prise en charge médicale? C'est le thème que nous abordons dans ce magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Okapi. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission. Merci de rester branché à Radio Okapi. L'épilepsie reste une maladie grave en RDC. Lorsqu'un patient épileptique fait la crise d'épilepsie à Kinshasa et ailleurs, au lieu de poser les gestes de secours pour aider la victime à ne pas subir le choc, les gens viennent plutôt observer la manière dont la victime est secouée par la crise. Comment se fait la prise en charge médicale de l'épilepsie? Quelle hygiène de vie mener lorsqu'on est épileptique et quels sont les gestes à poser lorsqu'un patient épileptique entre en crise d'épilepsie? Tentative de réponse à toutes ces questions dans ce numéro de Maïcha Boura qui débute par les témoignages de Jean-Noël Bissalou, un sujet épileptique que nous avons rencontré ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamu. C'est depuis l'âge de 2 ans qu'il a commencé à faire des crises d'épilepsie, mais depuis un certain temps, la fréquence des crises a régressé à la suite d'une prise régulière de médicaments et d'une bonne hygiène de vie. Nous allons écouter son témoignage.
D'après ce que l'on m'a dit, ça a commencé à l'âge de 1 année 6 mois, si je me souviens bien, et ça continue jusqu'à présent. Donc ça fait à peu près 21 ans comme ça.
Ça fait à peu près 21 ans que tu vis avec cette maladie?
Oui, exactement.
Vous faites des crises régulièrement?
Yeah. C'est maintenant rare, mais auparavant c'était très très fréquent. Ça pouvait venir par jour 3 fois ou des choses comme ça.
Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez fait la crise?
Ces jours-ci, par exemple. Je me souviens d'avoir fait une crise hier, mais elle n'était pas très très violente.
Vous étiez où?
J'étais dans ma chambre. D'ailleurs, c'était pendant le sommeil.
Dis-moi, est-ce que vous avez 21 ans? Aujourd'hui, vous avez dit?
J'ai 22 ans.
22 ans, vous avez 22 ans aujourd'hui. Vous savez que vous êtes épileptique. Est-ce qu'on vous a donné une idée sur la conduite à tenir pour éviter les crises à répétition?
Évidemment, oui.
Lesquelles?
Par exemple, la discipline avec les médicaments, les heures de sommeil, assez de repos, quoi encore que je peux citer, ne pas fournir trop d'efforts, tant physiques qu'intellectuels aussi.
Vous êtes étudiant?
Oui.
Merci à Monsieur Jean-Noël Bissalou qui a accepté de nous livrer les témoignages sur son état de santé. Daniel Bissalou, parent du jeune homme épileptique qui vient de nous donner son témoignage, confirme que c'est depuis l'âge d'une année et demie que son fils a commencé à faire des crises d'épilepsie. Il reconnaît que c'était très difficile pour lui et son épouse de gérer la survenue des crises que faisaient leurs enfants. C'est au cours d'une consultation médicale qu'ils avaient su que leur fils était touché par l'épilepsie. Nous allons écouter son récit.
Il avait moins de 2 ans. Il avait, je crois, 1 an et 4 mois ou 1 an et 6 mois dans cette fourche-là qu'il a commencé à faire des crises.
Et au départ, c'était comment pour vous en tant que parents
Au départ, c'était difficile à voir. Hein. Vous voyez un enfant qui tombe, qui fait des grimaces, qui se recroqueville, parfois il bave, parfois il mouille ses habits, etc. C'était difficile à vivre, très difficile à vivre. Et nous étions très inquiets, maman et moi.
Et depuis, vous accompagnez l'enfant chaque fois qu'il fait la crise. Est-ce que c'est facile en termes d'accès aux soins, en termes de considérations sociales?
Bon, c'est pas très facile, hein, parce que d'abord, quand il faisait des crises, nous, personnellement, on ne connaissait pas la maladie. Hein. On avait entendu parler de l'épilepsie de loin, mais quelqu'un de très proche, c'est la première expérience. Alors, c'était très difficile. C'est en allant chez des médecins qu'on nous a dit que c'était l'épilepsie. Mais vous voyez, il y a beaucoup de préjugés autour de l'épilepsie. Les médecins nous ont dit que c'est l'épilepsie, mais dans la société, souvent on dit que c'est une maladie que la médecine moderne ne sait pas soigner. Il faut aller plutôt dans les traitements traditionnels.
Vous êtes arrivé d'y aller aussi?
Oui, nous y sommes allés. Nous étions vraiment dans l'embarras, tellement les gens nous disaient que là ça peut aller. Nous sommes allés, mais la première fois qu'on a essayé, ça a plutôt aggravé encore la maladie. Ça a aggravé la maladie. Nous sommes revenus à la médecine moderne, mais il y en a qui sont venus encore nous dire que nous, il y a quelqu'un qui est un prophète, en même temps il soigne avec des plantes, il peut guérir, et cette fois-là avec la prière et les plantes ça ira. Au contraire, ça s'est aggravé encore. Finalement, nous sommes résolus de rester dans la médecine moderne.
Qu'est-ce qu'on entend par une épilepsie? L'épilepsie est une maladie neurologique qui se traduit par une activité électrique anormale au niveau du cerveau. Elle se caractérise par la répétition des crises épileptiques, selon Dr Mukeba, neurologue au centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP en sigle. Lorsqu'une personne fait une crise au moins deux fois l'intervalle d'une journée, on peut conclure qu'elle est épileptique. Nous allons suivre les explications du docteur Mukeba.
L'épilepsie, c'est une maladie qui se caractérise par la répétition des crises épileptiques.
Ça veut dire?
Une crise épileptique, c'est une hyperactivité de neurones, c'est-à-dire des cellules du cerveau. Et cette hyperactivité est due tout simplement à un déséquilibre entre les cellules qui excitent le cerveau et les cellules qui sont inhibiteurs au niveau du cerveau. Et quand il y a ce déséquilibre, c'est ce qui entraîne des crises épileptiques. Et quand une personne fait au cours d'une année au moins deux crises espacées de 24 heures, on peut le déclarer déjà comme faisant l'épilepsie.
Nous savons que dans ces pays, les statistiques posent problème. Est-ce que vous avez une idée sur les données épidémiologiques de cette maladie?
Alors, nous sommes dans un pays en voie de développement. On sait que selon l'OMS, 85% des malades épileptiques sont dans les pays en voie de développement. Et comme nous sommes en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas assez de statistiques parce que la maladie est entachée de beaucoup de croyances et beaucoup de malades ne vont pas à l'hôpital. Et nous avons du mal à pouvoir avoir des statistiques fiables que nous pouvons donner. Mais il est estimé dans le monde entier à 1 à 2% de la population, plus d'1% de la population fait l'épilepsie. Si on peut rapporter ça à la RDC, disant que nous sommes à 70 millions, nous estimons qu'entre 1 à 2% de la population ferait 700 000 à 1 400 000 personnes qui souffriraient de l'épilepsie dans notre pays. Mais nous n'avons pas encore des données parce que nos malades se cachent encore dans les maisons, encore la honte. Et
se confient aux tradipraticiens.
Oui, se confient à la médecine traditionnelle, et ainsi de suite.
L'épilepsie entraîne une perturbation temporaire de la communication entre les neurones. Habituellement, la crise est de courte durée. Elle peut avoir lieu soit dans une zone précise du cerveau, soit dans son ensemble. Cette maladie peut survenir à n'importe quel âge de la vie. Cependant, 60% des crises surviennent chez les enfants de moins de 10 ans et chez les personnes de troisième âge, d'après Dr Élisée Kisiyoko, médecin généraliste et chercheur en neuropsychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
Non, ce qui est vrai, la maladie atteint la personne de tout âge confondu. Mais sauf que nous notons une recrudescence des crises à l'âge plus jeune. Donc, presque 60% des crises épileptiques surviennent chez les enfants de moins de 10 ans. et les personnes d'âge supérieur à 60 ans. En fait, cela pouvait s'expliquer par le fait qu'avant 10 ans, les systèmes nerveux de l'enfant doivent se mettre en place.
Mmh, en cours de construction, il est en cours de construction, d'élaboration.
Voilà. Mmh. Et à plus de 60 ans, nous entrons dans le processus de neurodégénérescence.
De dégradation de
donc, les cellules nerveuses vont commencer à dégénérer petit à petit. Mmh. Voilà, ça, ce qui peut expliquer la recrudescence des crises à ces âges extrêmes. Mais, qu'à cela ne tienne, la maladie peut concerner la personne de tout âge.
Dans environ 60% des cas, les médecins ne sont pas en mesure de déterminer la cause exacte des crises. On suppose qu'environ 10 à 15% de l'ensemble des cas auraient une origine héréditaire puisque l'épilepsie semble plus répandue dans certaines familles. En des rares occasions, l'épilepsie peut être due à une tumeur cérébrale, une séquelle d'un accident vasculaire cérébral ou d'un autre traumatisme au cerveau. Et rappelons que pour qu'il y ait épilepsie, les crises des convulsions doivent survenir à répétition et non une seule fois. L'accident vasculaire cérébral est la principale cause d'épilepsie chez les adultes de plus de 35 ans. Les maladies infectieuses comme la méningite, le diabète, le VIH-Sida et l'encéphalite virale peuvent également provoquer une épilepsie. La lésion avant la naissance peut aussi être à la base de l'épilepsie. Il faut savoir que les bébés sont très sensibles aux lésions cérébrales qui pourraient être causées par plusieurs facteurs tels qu'une infection chez la mère, une mauvaise alimentation ou un mauvais apport en oxygène. Ces lésions cérébrales peuvent entraîner une épilepsie ou une paralysie cérébrale. Nous allons suivre les explications du docteur Élisée Kisiyoko, médecin généraliste et chercheur en neuropsychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
Actuellement, la Ligue internationale de l'épilepsie a classé les causes en 5 groupes. Nous avons des causes génétiques. On se rend compte que les ascendants ont fait la maladie, ils peuvent transmettre cette tare chez la descendance. Mais nous avons des causes lésionnelles. Nous avons la cause qui est là, connue. On parle d'épilepsie lésionnelle. Nous avons
la lésion peut être liée à un traumatisme.
Traumatisme, AVC, une infection aiguë et tout qu'on sort. On sait que la cause est identifiée, voilà. Mais on a aussi de causes métaboliques. S'il y a une maladie métabolique connue, diabète sucré, hypocalcémie, hypomagnésémie, hypoglycémie, ce sont des causes métaboliques qui sont identifiées dans un contexte de crise épileptique. On parle de causes métaboliques. Nous avons des causes auto-immunes. Il y a une maladie auto-immune qui entraîne un conflit antigène-anticorps. Si c'est identifié, c'est l'une des causes. Nous avons aussi de causes infectieuses. Cette fois-là, la situation n'est pas tout à fait dite. Nous avons par exemple le cas des neurocysticercoses. C'est une infection parasitaire qui va détruire le système nerveux central. La cause là est infectieuse. On peut avoir encore le cas des toxoplasmose cérébrale. Voilà, il y a plusieurs autres causes qui sont classées dans les causes infectieuses. Donc actuellement, on a, au lieu de 3 groupes de causes, nous avons 5 groupes de causes tels que publiés actuellement par la Ligue internationale contre l'épilepsie. Thank you.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez Radio Capi qui vous propose Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être qui s'intéresse aux facteurs qui sont à la base de la crise d'épilepsie et comment se fait la prise en charge médicale de cette maladie. Il faut savoir que les crises peuvent entraîner des blessures corporelles si la personne perd soudainement le contrôle de ses mouvements. Les individus atteints d'épilepsie peuvent en outre subir des répercussions psychologiques importantes et causées, entre autres par l'imprévisibilité des crises, les préjugés, les effets indésirables des médicaments, etc. C'est ainsi que les proches des patients épileptiques doivent maîtriser les premiers gestes de secours à poser en cas d'apparition des crises. Il est aussi important de balayer tous les préjugés au sujet de cette maladie. Nous vous proposons de suivre les témoignages de des proches des personnes qui souffrent de l'épilepsie interviewées ici à Kinshasa.
En fait, c'est vraiment douloureux lorsque c'est de crise. Bah, nous sommes tous ennemis dans les états qu'on ne peut jamais annoncer comment s'en sortir. Donc, c'est pas vraiment bien quand elle fait cette crise.
Et vous habitez quel quartier?
Yolo Nord.
Et au niveau du quartier, lorsque les gens racontent par exemple que votre maman fait des crises, comment ça vous fait? Est-ce qu'il y a un sentiment de rejet au niveau de la communauté sur votre maman?
En fait, auparavant, il y avait un sentiment de rejet, oui, mais actuellement, non.
Et comment est-ce que vous étiez en train de ressentir cela? Vous êtes en train de gérer toute cette situation-là?
Bah, c'était difficile. C'était vraiment douloureux. On avait trop mal vu que les gens disaient trop de choses. Bon, vous regardez de quoi avec des dents. Là, maman souffre. Là, maman, qu'elle est maladie. Genre, là, je dis, mais ressort. C'est ce que les gens disaient. Alors, ça nous a inquiétés. Ça faisait trop mal.
Mais vous aussi, au niveau de la maison, vous l'accompagnez moralement, vous la soutenez. On vous a appris également des gestes de secours à faire lorsqu'elle fait, elle fait des crises.
Oui, bien sûr.
Lesquels, par exemple?
Genre, on a dit que cette maladie n'est pas une maladie
contagieuse.
Elle n'est pas contagieuse. C'est une maladie qui se soigne. Elle doit respecter ses traitements, prendre ses médicaments et voilà, elle devient active. Et aussi, quand elle fait ses crises, nous faisons de notre en sorte que nous puissions enlever tout ce qu'il y a comme outil à ses côtés, s'il y a des assiettes, s'il y a quoi, lui mettre juste dans un espace un peu
sécurisé. À ce que vous faites, donc vous ne paniquez pas, vous prenez des dispositions pour éviter qu'il y ait...
Non, avant, oui, là, on ne connaissait pas encore. Mais maintenant, là, on sait déjà quand elle fait ça, on enlève les choses qui sont à ses côtés et puis on la dépose là.
Ça, c'est que la crise va passer.
C'est vraiment pas facile, déjà, pour nous qui vivons avec. Alors, c'est vraiment...
une situation...
Une situation
délicate,
difficile. Oui, il faut assister la famille, il faut assister la personne qui est en crise, il faut vivre avec eux, et surtout que je suis médecin, il faut savoir les expliquer, les faire comprendre, tout ça. Donc ce n'est pas vraiment facile.
Comme c'est une maladie caractérisée par les crises, vous avez développé certainement des réflexes. Quelles sont les quelques astuces que vous faites pour aider
Oui, déjà, par rapport à mes neveux, j'ai un neveu qui fait des crises généralisées, alors des crises avec vraiment des secousses et tout. Alors, dans ce genre de cas, c'est qu'on fait déjà, on ne panique pas, et on n'arrête pas non plus des crises. on met juste le patient en sécurité. Donc, si on enlève, on peut casser tous les objets qui peuvent le blesser. Alors, on les laisse dès qu'il finit sa crise. S'il reprend connaissance de lui, alors là, on lui administre ses médicaments, les médicaments qu'il est déjà en train de prendre. Et si les crises sont vraiment répétées, là, il faut qu'on l'amène directement à l'hôpital pour qu'on lui fasse des injections pour arrêter la crise.
Est-ce que socialement parlant, c'est facile d'avoir des dépendants qui vivent avec cette maladie-là? La perception qu'a la communauté sur ces personnes?
Déjà, c'est pas facile parce que pour le convaincre déjà d'adhérer à ces traitements, c'était pas facile parce qu'ils ont commencé avec des traitements traditionnels. Ils sont allés voir beaucoup de tradis praticiens, ça n'a pas marché, alors ça n'a pas été facile de les convaincre d'aller voir un neurologue. Alors quand ils sont allés voir un neurologue, le neurologue a confirmé que c'est une épilepsie qui était due à une cause précise, notamment pour mon neveu c'était dû à une tumeur au niveau du cerveau. Et alors dans son cas, il fallait maîtriser le crise. Alors voilà, on a vu le neurologue a prescrit ce qu'il fallait et maintenant les crises sont maîtrisées.
Les crises prolongées ou qui ne se concluent pas par un retour à l'état normal au-delà de 5 minutes doivent absolument être traitées d'urgence selon le docteur Élisée Kisiyoko. Nous rappelons qu'il est médecin généraliste et chercheur en neuropsychiatrie à l'université de Kinshasa. Selon ces chercheurs, les crises prolongées peuvent entraîner d'importantes séquelles neurologiques à tout âge.
Ce qui est encore plus important, que tout le monde doit connaître, c'est surveiller la durée de la crise, c'est important. On nous amène des fois des malades déjà décédés, la crise a eu lieu, vous attendez le temps passé, les malades ne vont pas se réveiller. Si la personne fait la crise et que cette phase de secousse va au-delà de 5 minutes, il faut l'acheminer à l'hôpital.
Rapidement.
Il faut l'acheminer à l'hôpital, on sait, nous sommes déjà dans la phase d'état de mal épileptique. Nous avons des protocoles que nous mettons à la disposition de tout le monde pour la prise en charge pendant cette phase-là. Et pas seulement ça, quand vous constatez qu'il a fait la première crise, il est entré un peu en coma, il n'y a pas de prise de conscience, et il refait encore une autre crise deux, trois fois. Nous sommes dans la phase d'état de mal. Plusieurs crises qui se suivent sans reprise de conscience, il faut l'amener à l'hôpital. Donc, c'est important de surveiller la durée de la crise parce que ça fait partie des éléments de pronostic de la maladie. Quand vous venez chez le médecin, vous lui dites, non, cette crise a fait par exemple 2 minutes et c'est lui qui a fait une crise de 10 minutes, la conduite ne sera pas la même, on saura qu'est-ce qu'on pourrait.
Sachez que l'épilepsie est une maladie qui se soigne dans 80% des cas. Son traitement repose sur la prise des médicaments et sur la chirurgie selon le docteur Moukeba, neuropsychiatre au CNPP.
L'épilepsie, c'est une maladie qui a un traitement et les traitements reposent sur, il y a des traitements avec des médicaments, il y a aussi des traitements avec la chirurgie. Maintenant, pour passer à un traitement chirurgical, il faut d'abord avoir reçu un traitement avec des médicaments et que ces traitements n'aient pas réussi. Là, on peut penser à faire une chirurgie du cerveau pour pouvoir enlever la partie du cerveau qui entraîne des crises. Mais pour ce qui concerne les médicaments, il y en a plusieurs dans le monde. Mais dans notre pays, nous avons une carence en médicaments parce que nous n'avons que 4 types de médicaments qui sont disponibles sur le marché. Nous avons des médicaments qu'on avait dans le temps et qui existent jusqu'à aujourd'hui, les phénobarbitales, la phénytoïne.
Bien que nous ne faisons pas la prescription médicale, on ne demande pas aux patients d'aller acheter à la pharmacie sans prescription, sans recommandation.
Normalement, un malade qui souffre d'épilepsie ne doit pas aller prendre des médicaments seul. Il doit d'abord consulter un médecin. Et le médecin, s'il trouve que le malade fait l'épilepsie, il les recommande chez le neurologue. Le neurologue va donner un traitement et le traitement a pour but de pouvoir arrêter les crises chez les patients.
Parlons maintenant dans le domaine de la recherche des avancées. Est-ce qu'il y a des avancées dans la prise en charge médicale des épileptiques dans notre pays?
Oui, il y a une grande équipe au niveau de notre université, de Kinshasa, où des gens travaillent sur l'épilepsie dans tous les aspects, que ce soit l'aspect concernant les médicaments, l'aspect concernant l'accompagnement des malades, pour la compréhension des facteurs de la perception de la maladie. Il y a des équipes qui travaillent sur la présentation clinique des crises et il y a des avancées. Et seulement que nos études, parfois, nous avons des difficultés pour se les faire connaître à travers toute la République parce que nous sommes dans un milieu scientifique.
L'épilepsie peut durer toute la vie, mais certaines personnes qui en sont atteintes finiront par ne plus avoir des crises car c'est une maladie qui se soigne comme nous l'avions dit précédemment. Lorsqu'une personne fait une crise d'épilepsie, il faut rapidement mettre la victime en position de sécurité. D'après Dr Élisée Kisiyoko, nous rappelons qu'il est médecin généraliste et chercheur en neuropsychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Nous allons suivre ses explications.
Nous sommes d'abord rendus compte que ces gestes, quand on en parle, les préjugés de la communauté nous limitent. Une personne fait une crise
parce qu'il est passé dans la rue. Il y a la salive.
Il est en train de faire sa crise.
Oui.
Mais les gens ne savent pas faire des gestes de secours parce qu'ils craignent que la maladie se contamine.
Ils viennent en spectateur regarder
la personne. Ils observent, il est en train de faire la crise. Ils vont fuir parce qu'ils se disent quand je le touche, je serai contaminé. Non, la maladie ne se contamine pas. Mais ce qu'on fait, d'habitude, quand vous voyez déjà quelqu'un faire une crise, qui a possibilité de tenter d'amortir la chute, vous pouvez. Si bien que la crise survient de façon brusque,
soudaine,
mais pour la plupart des cas, les épileptiques se rendent compte que la crise est en train de venir. Ils sentent des signes évocateurs, des signes qui annoncent, des signes annonciateurs de la crise, qu'on appelle en français aura. Quand ils sentent ça, des fois, ils se tiennent quelque part, ils peuvent vaciller, tout ça, ils peuvent se retirer, tout ça. Quand vous voyez déjà que vous connaissez que la personne épileptique, quand il y a des manifestations comme ça qui apparaissent, vous pouvez d'abord les tenir et les déposer calmement. C'est comme ça qu'on dit qu'il faut tenter d'amortir la chute. Parce que quand vous les laissez tomber, il peut tomber sur quelque chose de plus dangereux. Bon, dès qu'il est déjà tombé, il faut une position de sécurité. Essayez de faire en sorte que le malade ne puisse pas s'asphyxier. C'est s'il tombe les nez coincés
sur le sol, il aura du mal à respirer.
Il aura une hypoxie qui va l'achever. Alors que si vous l'avez mis en position de sécurité, il pouvait respirer, faire sa crise jusqu'à la fin. Bon, on peut aussi interposer un dispositif entre la tête et le plan du sol qui fait la crise pour éviter ce que l'onde de choc pendant qu'il fait des crises toniques là puisse atteindre le cerveau. Parce qu'il est en train de cogner le sol. Et quand il cogne là, l'onde de choc là va atteindre le cerveau. Mais si vous interposez quelque chose qui pouvait empêcher ce que...
En installant par exemple un matelas...
Oui, tu peux enlever ta chemise, mettre, tu peux mettre quelque chose qui paraît un peu sécurisant, qui va soutenir la tête. Et quand il fait des secousses, il ne puisse pas...
Cogner le sol.
Voilà. À part ça, il faut écarter tout objet dangereux dans l'environnement. Parce qu'il peut tomber sur une pierre, il peut tomber sur un couteau, sur le feu, tout
le bras zéro allumé,
il faut
éloigner de l'environnement tous ces objets.
Le suivi médical des épileptiques est très indispensable. Cela nécessite des consultations médicales selon les rendez-vous avec les personnels soignants et l'accès aux médicaments prescrit. Daniel Bissalou, parent du patient épileptique que nous avons donné la parole au début de cette émission, souhaite l'implication des décideurs congolais dans la prise en charge médico-sociale des épileptiques en RDC.
Je dirais que c'est pas facile. Parce que, c'est un spécialiste nécessairement qui doit suivre ça.
Ils ne sont pas nombreux,
ils sont rares. Ça, c'est la première chose. L'accès aux médicaments. Il existe maintenant, avec les renseignements que nous recevons, il existe beaucoup de médicaments, mais il n'y a que deux ou trois espèces. Le médecin en parlera, il est plus outillé pour parler de ça. Il n'y a que deux ou trois espèces de molécules qu'on importe dans notre pays. Les autres molécules sont à l'étranger. Nous, par exemple, avec les médicaments qu'il prend, nous devons faire appel à une sœur qui est en Belgique pour nous fournir ces médicaments-là. Là, c'est une grande difficulté aussi. Peut-être si, je ne sais pas si j'anticipe, c'est là où nous devons demander à nos instances supérieures de pouvoir considérer cette maladie comme une maladie de santé publique et faciliter l'accès, surtout aux médicaments.
C'est par les plaidoyers de M. Daniel Bissalou, parent d'un enfant souffrant d'épilepsie, que s'achève le magazine Maïcha Bora consacré à la crise d'épilepsie. Facteur de risque, comment se fait la prise en charge médicale de cette maladie? Tati Mapoukou a coordonné et présenté ses numéros. Tina Salama a supervisé cette émission. Mimi Kindo a assuré la prise des sons. Les rendez-vous est pris dans une semaine pour un nouveau numéro de Maïcha Bora. Agréables conditions d'écoute à toutes et à tous. À bientôt.